Vous êtes toujours sur Choc FM avec Kitry Hervouet. Je suis en studio avec Mireille Messier pour son livre « Ma branche préférée ». C'est un livre pour enfants. Pour quel enfant, quel âge c'est, Mireille ?
Bonjour Kitry. Eh bien, ma branche préférée s'adresse particulièrement aux enfants de 3 à 7 ans. Évidemment, puisque c'est une histoire qui parle aussi de grands-parents, donc je crois que ça ouvre peut-être la porte à un plus grand public, mais l'histoire est vraiment pour les 3 à 7 ans.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus?
Oh, certainement, ça va me faire plaisir. Ma branche préférée, c'est une histoire que j'ai écrite à la suite de la grosse tempête de verglas qu'il y a eu à Toronto en 2013, décembre 2013. On a eu au moins 5 jours. Il y a certains que c'était 7 jours qu'on n'a pas eu d'électricité. C'était vraiment... ça a été assez marquant. Et nous, à la maison, on a un magnolia, qui est un magnifique arbre qui 50 ans, 60 ans, donc vraiment immense. Et on a eu très peur. On a eu peur qu'il casse. Donc, à partir de ce moment-là où je regardais mon arbre avec les branches qui étaient toutes lourdes de glace, j'ai inventé une histoire où la branche préférée de l'arbre préféré d'une petite fille casse. Et ensuite, comment elle se serait sentie? Qu'est-ce qu'elle aurait fait pour régler cette perte-là qu'elle a dans sa vie. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai inventé l'histoire d'une petite fille dont la branche de l'arbre préféré casse après une tempête de verglas et qui veut garder la branche. Mais évidemment, la maman a dit « Mais c'est juste une branche, on ne garde pas une branche à la maison. » Et la petite fille, qui est déterminée, dit « Non, moi, je veux la garder, mais elle doit trouver un moyen, quelque chose à faire avec la branche pour pouvoir la garder. » Et c'est ça l'histoire de ma branche préférée.
Et c'est un livre illustré avec des illustrations. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec la personne qui fait ces illustrations?
À prime abord, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Et j'ai été jumelée pour ce livre-là avec Pierre Pratt, qui est un illustrateur chevronné que moi, je connaissais de longue date. Je connaissais son œuvre. J'ai été choyée que ce soit lui qui était jumelé avec moi pour cette histoire-là. Par contre, moi, j'ai jamais rencontré Pierre Pratt. C'est surtout l'éditeur qui fait affaire avec l'illustrateur. Moi, je vois en premier lieu les croquis. Ensuite, on peut donner un peu nos impressions, etc. Et ensuite, il y a plusieurs différentes étapes. Moi, je transige avec l'éditeur et l'éditeur transige avec l'illustrateur. Donc, c'est toujours par personne interposée. Et même à ce jour, même si le livre est sorti, connaît un très beau succès, je n'ai pas encore rencontré Pierre Pratt en personne. Donc, on se connaît, on est des amis Facebook, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc, j'espère avoir la chance de le rencontrer en personne un de ces jours.
Est-ce que vous faites toujours des livres qui sont illustrés ou est-ce que ça vous arrive parfois de faire des livres pour enfants ou il y a juste du texte?
Moi, j'ai une série chez un autre éditeur qui est les éditions du Vermillon, une série de mini-romans pour les 9 à 12 ans. Donc, ce sont des mini-romans avec des chapitres et quelques illustrations. Par contre, mon amour, si vous voulez, ce sont les albums. Donc, j'aime écrire des textes d'albums, ce qui ne veut pas dire que j'écrirai pas un roman grand public un jour, mais ce qui me fait vraiment vibrer en ce moment. Et souvent, quand j'ai des idées d'histoire, elles me viennent en premier sous forme d'album.
Et alors moi, je suis un peu curieuse, je me dis... Pourquoi les livres pour enfants, c'est votre passion? Ça fait combien de temps que vous écrivez ces livres pour jeunesse?
Mon premier livre est sorti en 1999, donc ça fait déjà belle lurette. J'ai essayé à quelques reprises, j'ai des idées d'histoires qui pourraient être des histoires grand public, et écrire une histoire pour les adultes ou un roman pour les ados, c'est plus comme faire un marathon. Tandis que moi, je suis plus une sprinteuse. J'ai une idée, je la mets sur papier et ensuite, je suis prête à la retravailler pendant des mois, même des années. Mais par contre, ce premier jet, c'est souvent, moi, ça me vient en tant qu'album, souvent. Il y a des gens qui, quand ils écrivent, ce qui sort, c'est de la poésie. Moi, quand j'écris, ce qui sort, c'est des albums jeunesse.
Et quelles sont vos influences? Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez des albums peut-être préférés? Quand vous trouvez votre inspiration, ça vient donc là vous m'avez dit de la tempête de verglas qu'il y a eu à Toronto. D'où ça vous vient généralement votre inspiration?
Ça m'y est souvent de mon quotidien, des petits éléments, des choses comme ça que je remarque. Moi, j'ai la chance de faire beaucoup de présentations scolaires. J'en fais une centaine par année. Donc, j'ai la chance de patauger, si vous voulez, dans cet univers-là de la jeunesse. Donc, je vois les jeunes, je vois ce qu'ils portent, j'entends ce qu'ils disent, je vois qu'est-ce qui les fait vibrer. Quand on va dans une cour de récréation et on voit comment les jeunes interagissent, donc tous ces éléments-là, toutes ces choses-là peuvent éventuellement se retrouver dans mes histoires. Donc souvent c'est dans mon quotidien. Je puise aussi assez fréquemment dans mon enfance. Je pense que la plupart des auteurs jeunesse, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des enfants. Il y a plusieurs auteurs jeunesse qui n'en ont pas. Moi j'en ai, donc je peux voir comment elles réagissent et qu'est-ce qui les fait rire, etc. Mais par contre, on est des gens qui restent. On n'a jamais voulu devenir adulte. Je pense que c'est ça qui fait un bon auteur jeunesse. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, qui aime encore tout ce qui les fait vibrer, qui réagit à son entourage et qui reste très jeune, très enfantin. Pas enfantin d'une façon négative, mais qui reste encore très ouvert à ce qui se passe autour de lui. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça me colle à la peau, parce que moi, j'ai toujours été une personne qui a aimé ça, qui aime être entourée de gens qui sont jeunes, j'adore lire des albums jeunesse, des livres jeunesse, même que la majorité des choses que je lis, c'est dans le jeunesse, c'est pour ados, c'est pour petits. J'en lis des livres jeunesse, je dois en lire une douzaine par semaine.
Ah oui?
Je vais à la bibliothèque, je suis là au moins 2-3 fois par semaine. Les bibliothécaniciens dans mon quartier me reconnaissent. Puis des fois, ils savent un petit peu qu'est-ce que je cherche. Ils disent « Ah, tu as vu, on a reçu telle chose. » Donc, je lis beaucoup, je consomme beaucoup de littérature jeunesse. Ce qui, pour moi, c'est essentiel dans mon métier, parce que en sachant qu'est-ce qui se publie en ce moment, je reste au diapason avec tout ce que j'écris également.
Et est-ce qu'il y a un auteur en particulier, un auteur jeunesse, qui vous a fait vibrer quand précédemment ou même encore maintenant?
Ben plus dans les romans jeunesse, j'ai trois auteurs qui sont mes préférés. Michael Morpurgo, qui est un auteur qui vient d'Angleterre, dont j'adore. Moi, la première fois que j'ai lu, je me disais, oh, quand je vais être grande, je vais écrire comme ça. Puis pourtant, je l'ai lu et j'étais dans la trentaine. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est magnifique ce qu'il fait. Susan Nielsen, qui est une auteure de Colombie-Britannique, dont j'adore l'œuvre, je la suis. J'ai tout le temps hâte de voir qu'est-ce qu'elle va sortir. Et il y a aussi Lemony Snicket, qui est un auteur des États-Unis, vous connaissez peut-être la série Les Orphelins Baudelaire.
Oui.
Donc ça, j'aime beaucoup son humour un peu noir.
Un peu noir, oui.
Oui, très noir. Et aussi, qui casse un peu le quatrième mur, qui s'adresse directement au lecteur. Donc ça, j'adore ça. Je trouve ça déstabilisant, mais d'une façon très, très positive. Donc ce sont mes trois préférés. Et en Ontario français, il y a aussi André Poulain, qui est une grande copine, une copine de longue date. Et à chaque fois qu'elle fait paraître un livre, j'en reviens pas. Je suis complètement sous le charme de tout ce qu'elle écrit.
Et vous avez cité des auteurs anglophones. Est-ce que ça vous arrive d'écrire dans la langue de Shakespeare, parce que là vous écrivez vraiment en langue française, mais vous vivez donc à Toronto, en Ontario, qui est quand même une province à majorité anglophone. Ça vous arrive d'écrire en anglais?
Ça m'arrive d'écrire en anglais. Ça dépend de l'histoire,
de l'inspiration.
Ça dépend du contexte dans lequel j'écris. Donc souvent, je prends aussi des cours, des ateliers, des choses du genre. Et puisque c'est à Toronto, souvent ces ateliers-là sont en anglais. Donc je suis appelée à écrire en anglais. Puisque je fais du jeunesse, je trouve que ça joue en ma faveur, parce que quand on écrit du jeunesse, il faut garder un langage qui est très simple, des tournures de phrases qui sont simples, et puisque l'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, souvent je tombe dans la simplicité, ce qui est très bien dans le jeunesse. Donc, je fais un petit peu des deux. Ça dépend quand l'idée me vient. Ça dépend, c'est ça, de pour qui j'écris l'histoire. Donc, des fois, j'écris en anglais, des fois, j'écris en français.
Et vous avez dit que vous alliez dans les établissements faire des présentations. Moi, je me suis toujours posé la question, mais en quoi consiste une présentation? Parce que moi, j'ai fait mes études en France et j'ai jamais eu d'auteurs qui m'ont fait de présentation quand j'étais plus jeune. Donc je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que fait un auteur en fait? Vous lisez aux enfants, vous présentez vos livres, c'est interactif?
C'est un peu tout ça. Souvent je me présente, j'explique c'est quoi une auteure, qu'est-ce que ça fait une auteure. Souvent quand je vais présenter les albums également, je leur explique, moi j'écris les mots et c'est quelqu'un d'autre qui fait les dessins, parce que souvent, surtout avec les plus petits, ils croient automatiquement que c'est moi qui fais les dessins. Mmh. Et ça s'explique mal. Pourquoi tous tes dessins sont différents? Ben parce que c'est tous des illustrateurs différents. Ce que ces livres-là ont en commun, c'est moi, l'auteur, mais c'est des différents illustrateurs. Donc, j'explique un peu ça. Je présente mon œuvre. Ensuite, dépendamment du groupe d'âge, je vais choisir un livre qui est plus apte à les intéresser. Je vais présenter ce livre-là. Souvent, je vais expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai eu l'idée du livre. Et ensuite, souvent, on a une activité interactive qui est en rapport avec le thème du livre. Donc, dans ma branche préférée, je vais parler des arbres, du recyclage, d'utiliser des outils, faire de la menuiserie. Donc, des choses comme ça qu'on aborde après avoir lu le livre. Et moi, je fais souvent faire des versions géantes de mes livres. Il y a d'autres auteurs qui, eux, préfèrent faire des présentations plus PowerPoint sur des écrans, etc. Moi, je suis encore très old school. Je préfère le livre tangible, autant parce que pour moi, un livre, c'est important que ça demeure un livre. Oui. Et également parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui casse, tandis qu'un livre, ça peut jamais... Les piles peuvent pas ne pas fonctionner, les fils ne peuvent pas être compatibles, ta clé USB ne peut pas être corrompue. Donc, et voilà, j'ai un livre, je me présente et je sais que je sois dans une bibliothèque, dans une salle de classe, etc., je peux toujours très bien m'adapter avec un livre papier.
C'est vrai qu'un livre, au final, un livre papier, je me dis que c'est quand même encore l'avenir parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui vont lire sur e-book, donc livre électronique. Mais pour les enfants, le fait de toucher le papier, de voir les illustrations, de pouvoir tourner même les pages, c'est beaucoup plus au final interactif que le fait de lire ou de regarder un PowerPoint.
Mais pour les albums, l'avenue du livre numérique a pas fait un gros changement. C'est encore le livre papier qui règne en roi parce que, justement, à cause de cette sensation de prendre un livre, voir la couverture, tourner les pages, pouvoir voir vraiment les illustrations, prendre son temps. Donc, ça, je pense que le livre papier, surtout avec les albums jeunesse, c'est là pour rester.
Et vous êtes également scénariste à Mini TFO.
Oui!
Alors... pour les gens qui ne connaissent pas TFO, c'est la télé francophone de l'Ontario. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu en quoi ça consiste d'être scénariste pour Mini TFO? Parce que moi, je connais vraiment les scénaristes qui vont faire des courts-métrages ou des longs-métrages de fiction. Mais pour des scénarios, pour peut-être des séries télévisées pour enfants, en quoi ça consiste?
Mais c'est des textes qui sont beaucoup plus courts, avec des personnages souvent beaucoup plus colorés. Donc, on parle des scénarios de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, maximum 4 minutes. Donc ça, c'est vraiment très, très long, là, quand on écrit un scénario jeunesse en 4 minutes. Donc, et souvent, c'est des séries qui sont, quand on fait appel à mes services, on va me dire, on veut une série qui parle de mathématiques, qui s'adresse aux élèves de maternelle-jardin, Et ça va être avec tel personnage. Donc, moi, je pars avec ces éléments-là et j'invente une série de 10, une série de 20, une série de 30 scénarios.
D'accord. Donc, là vous faites environ... donc, généralement, je sais que dans le cinéma, généralement, c'est une page, une minute. Donc, si vous faites, par exemple, ça fait deux minutes, ça fait deux pages.
Oui, c'est la règle de Marc, oui.
Et alors, moi, j'ai une question un peu technique. Vous utilisez Final Draft pour...
Non, c'est Celtics.
Ah oui,
qu'on utilise.
Ah oui, alors moi j'ai toujours, alors bizarrement moi aussi pour écrire des courts-métrages, j'utilise Celtics, mais bizarrement j'ai toujours appelé Celtics.
Mais moi je l'appelais quand j'ai vu le nom, disais Celtics, mais apparemment on doit prononcer Celtics et donc.
Ah d'accord, vous m'apprenez quelque chose aujourd'hui. Je l'ai toujours prononcé Celtics, donc vous voyez. Mais effectivement c'est un outil qui est très bien si vous écrivez des scénarios, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages ou même des scénarios pour enfants. Est-ce que vous pourriez me dire si vous écrivez un autre livre en ce moment, vous êtes ou si vous en écrivez peut-être plusieurs, parce qu'il y a des auteurs qui en écrivent plusieurs en même temps?
Je pense que la majorité des auteurs jeunesse travaillent sur plusieurs projets en ce moment. Je suis de celle-là. J'ai un manuscrit qui est accepté quelque part, qui va sortir, qui a été illustré déjà et qui sera disponible à l'automne. J'en ai un autre qui est accepté et là, on est en train de retravailler le texte. J'en ai sur lequel je travaille qui sont vraiment au niveau d'ébauche, donc c'est un premier jet, donc je suis pas rendue très, très loin. J'en ai d'autres qui sont terminés, j'attends des réponses. Donc, j'en ai à plusieurs différents stages de la production et c'est comme ça que j'aime ça. Je serais pas capable de mettre toute mon énergie sur un livre et d'attendre qu'il soit terminé avant de commencer un autre, parce que le processus pour un album est très long. De l'écriture au moment où on l'envoie chez un éditeur, on a une réponse, il se fait illustrer, il est imprimé, il va en magasin, c'est en moyenne 2 ans, 3 ans. Donc,
trois ans. Mais alors, moi, je comprends pas le fait que ça prenne autant de temps, parce que c'est quand même je me suis toujours dit qu'un album, pour enfants ou qu'un livre jeunesse prenait moins de temps que peut-être un livre pour adultes. C'est quoi? C'est le fait que ça soit illustré qui prenne plus de temps?
C'est un peu ça. C'est l'illustration, c'est l'impression, mais c'est aussi de retravailler le texte avec l'équipe éditoriale. Même si c'est un texte très court, souvent on va faire 10, 12, 15 versions avant la version finale. En ce moment, je suis avec un éditeur. On est en train de retravailler le manuscrit que j'ai envoyé. On est rendu à la troisième ronde de changement avant qui soit envoyé à l'équipe éditoriale. Donc, on n'est même pas rendu, on n'a même pas encore eu un oui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, souvent, on regarde un texte, à cause qu'il est court, on se dit « Ah, mais ça va être rapide. Détrompez-vous. » Mais non. Donc, c'est pour ça aussi que je me considère une sprinteuse. Parce que, tu sais, je cours vite, 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 mais je cours souvent. Tandis que souvent, avec un roman, le manuscrit est proposé, il y a un peu de changement, puis après ça, à cause qu'il n'y a pas d'illustration, la production se fait beaucoup plus vite.
Merci beaucoup, Mireille. Votre album, Ma branche préférée, est aux éditions Scholastique. Il a été illustré par Pierre Pratt, comme vous le disiez, et vous avez d'autres également éditeurs qui sont, par exemple...
Je publie beaucoup avec les éditions Scholastique, donc ça, c'est vraiment... C'est mon chouchou, mon éditeur chouchou. J'ai aussi des livres aux éditions de Lisatis, aux éditions de La Bagnole, aux éditions Vermillon. Je fais des choses aussi avec le CFORP, qui est le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Et j'ai des livres aussi aux éditions de la Smala. En tout cas, j'en ai un petit peu partout. La façon la plus facile de trouver mes livres, c'est peut-être d'aller sur mon site web. Là, donc, tout est répertorié là-bas. Il y a une bibliographie au www.mireille.ca.
Merci beaucoup Mireille Messier pour cette entrevue. Et vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitri Hervouette.